Vous entendez derrière moi le final, l'allegro d'une symphonie, la symphonie numéro 3 en sol mineur, opus 36 de Louise Farinck, une compositrice que l'on commence à redécouvrir, car c'est peut-être l'un des grands mérites que l'on peut attribuer au mouvement MeToo, la réhabilitation de femmes de talent injustement oubliées. Si je vous dis Lily Boulanger, Rebecca Clark, Mel Bonis ou encore Cécile Chaminade, eh bien vous ne me dites peut-être pas grand-chose, même si quelques interprètes redonnent aujourd'hui une place au répertoire de ces femmes compositrices. Dans ce repos musical, je vous emmène à la rencontre de quelques femmes musiciennes, compositrices, pédagogues aux destinées souvent incroyables. Je vous propose de commencer ce petit tour d'horizon en compagnie de Germaine Taillefer, cette compositrice du XXe siècle, membre du célèbre groupe des Six, dont faisaient également partie notamment Darius Milhaud et Francis Poulenc, s'est essayée à tous les genres musicaux de son époque et elle en a connu, puisqu'elle a vécu 91 ans. Elle nous a quittés en 1983. Travailleuse acharnée, déterminée, elle intègre le Conservatoire supérieur de Paris, malgré l'opposition de son père. Et ce ne sera pas le seul homme à lui mettre des bâtons dans les roues. Mariée deux fois, ses deux époux jalousent son succès et ne lui manifestent aucun soutien. Mais Germaine Taillefer parvient malgré tout à composer et est même plutôt prolifique. Elle compose des concertos, des opéras et même pour le cinéma. Mais c'est une pièce pour deux pianos intitulée Images que je vous propose d'écouter tout de suite, une pièce composée en 1918, interprétée ici par Mark Linton et Nicole Carboni. Thank you. Image, une pièce pour deux pianos de Germaine Taillefer, interprétée par Mark Clinton et Nicole Carboni. Si Germaine Taillefer a dû aller à l'encontre de l'avis de son père, qui refusait catégoriquement que sa fille entame une carrière de musicienne, ce ne fut pas le cas pour Clara Wieck, plus connue sous le nom de Clara Schumann, son nom ayant longtemps été associé à celui de son époux, le célèbre compositeur Robert Schumann. Friedrich Wieck, le père de Clara, est pianiste et professeur réputé dans la région de Leipzig. Il enseigne le piano à sa fille dès son plus jeune âge. Il comprend très vite que Clara fait partie de ces enfants prodiges qui maîtrisent à la perfection le langage musical. Une enfant prodige qui donnera son premier concert à l'âge de 6 ans. Elle deviendra très rapidement l'une des pianistes les plus adulées d'Europe. Et en plus de ses concerts, Clara Schumann s'essaie aussi à la composition. Elle signe une quarantaine d'œuvres, parmi lesquelles cette romance pour piano en la mineur. C'est Marie Vermelin qui est au piano.
Thank you.
Romance en la mineure de Clara Schumann, Marie Vermeulen était au piano. Tout comme Germaine Taillefer, dont nous écoutions une pièce en début d'émission, Lily Boulanger fait partie de ces rares femmes qui intègrent le Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris. Elle naît en 1893 dans la capitale et grandit dans une famille de musiciens. Son père est compositeur, il enseigne le chant au Conservatoire de Paris. Il a même reçu le prix de Rome et sa mère, une princesse d'origine russe et cantatrice. Quant à sa sœur, Nadia, elle connaît également le succès en tant que compositrice, pédagogue et aussi ambassadrice de l'œuvre de sa sœur. Lily Boulanger est de constitution fragile. Elle lutte contre une tuberculose intestinale qui l'emportera à l'âge de 24 ans. Une courte vie marquée par la douleur, mais qui n'empêche pas la jeune femme de signer des pièces pour piano, de la musique de chambre, des fugues, des cantates et s'essaie même à l'opéra. La princesse Malène, un opéra en 5 actes d'après la pièce du même nom de Maurice Maeterlinck, mais qui demeurera inachevée. C'est une pièce de musique chorale que je vous propose d'écouter tout de suite. Ça s'appelle Les Sirènes, une pièce pour chœur à 3 voix de femmes et chœur mixte en coulisses et piano. Michael Albert dirige l'ensemble Orpheus, accompagné au piano par Anthony Berichevski.
Thank you.
Michael Albert dirigeait l'ensemble Orpheus, accompagné au piano par Anthony Berichevski pour ses sirènes de Lily Boulanger. Allez, direction l'Angleterre maintenant, terre natale d'une compositrice qui connut un vrai succès de son vivant avant de tomber dans l'oubli, Rebecca Clarke. Elle naît en 1886 à Harrow et son père, un Américain passionné de musique, lui fait apprendre le violon. Elle débute à la Royal Academy of Music, puis entre ensuite au Royal College of Music, devenant la première élève féminine de Sir Charles Le Villiers Stanford. Rebecca Clarke commence à gagner sa vie en devenant altiste et elle devient l'une des premières femmes musiciennes d'orchestre professionnelle lorsqu'elle est sélectionnée par Sir Henry Wood pour jouer dans le Queen's Hall Orchestra en 1912. Elle quitte l'Angleterre 4 ans plus tard pour rejoindre les États-Unis où elle commence à composer. Elle écrit Morpheus, une petite pièce lyrique qu'elle signe sous le nom d'Anthony Trent, largement félicité par la critique. Des critiques qui remettront ensuite largement en question les compositions de Rebecca Clarke. L'idée qu'une femme puisse composer de telles œuvres étant socialement inconcevable. Rendons-lui justice aujourd'hui en écoutant une de ses sonates. Paul Gentara est à l'alto et Alexandre Lory est au piano. Ils interprètent le premier mouvement de la sonate, donc pour alto et piano, de Rebecca Clarke. Paul Zientara et Alexandre Lory interprétaient le premier mouvement de la sonate pour alto et piano de Rebecca Clark. Elle remonte un peu plus loin dans le temps, en 1805, année de naissance de Fanny Mendelssohn. Moins connue que son frère Félix, elle n'en est pas moins talentueuse, bien au contraire. Pianiste extrêmement douée, elle se met à composer très jeune et même si son père et même son frère s'opposent clairement à l'émancipation musicale de Fanny, en tout cas une émancipation professionnelle, elle écrit tout de même près de 250 leaders pour soprano et piano, ainsi que plus d'une centaine de pièces pour piano seul. On lui attribue en tout 400 œuvres. On sait aussi qu'elle a écrit quelques œuvres pour son frère, des œuvres qui rencontraient d'ailleurs le plus de succès lors de représentations. Si Fanny Mendelssohn obéit aux injonctions de son frère, qui pourtant voue un véritable respect, une grande admiration à Fanny, à qui il soumet ses compositions, elle décide quand même de se faire publier à la fin de sa vie, à l'âge de 41 ans, aidé entre autres par deux grands admirateurs, Charles Gounod et un certain monsieur de Quédel. Écoutons ensemble ce nocturne en sol mineur de Fanny Mendelssohn. Michel Cohen est au piano.
Thank you.
Michel Cohen qui interprétait le Nocturne en sol mineur de Fanny Mendelssohn. Autre artiste tout aussi prolifique que Fanny Mendelssohn, c'est Cécile Chaminade. Elle naît en 1857 à Paris, elle grandit dans une famille bourgeoise, son père est directeur d'une compagnie d'assurance et sa mère est une grande mélomane. Elle chante et joue du piano. La petite Cécile apprend donc la musique et se révèle très talentueuse. Georges Bizet, un ami de la famille, la surnomme même son petit Mozart. Bizet qui insiste auprès de Monsieur Chaminade pour l'inscrire au conservatoire, mais tout comme Germaine Taillefer avec son père et Clara Schumann avec son époux, son père refuse. Il faudra de longues, très longues négociations pour qu'il accepte un compromis, à savoir que sa fille prenne des cours avec des enseignants du conservatoire, mais à domicile. Elle prend donc des cours de piano, d'harmonie, de contrepoint, elle se met à la composition, elle commence à donner des concerts assez jeune. Elle a 18 ans quand elle se produit à la salle Pleyel dans le dos de son père. Après le décès de celui-ci, elle entreprend des tournées mondiales, elle devient une véritable star à l'époque. Elle est invitée par la reine Victoria, elle déjeune avec le président Roosevelt, elle fait salle comble partout où elle se produit. Mais la critique ne l'épargne pas pour autant. Lors d'une tournée aux États-Unis, le journal américain The New York Evening Post écrit ceci. Ce concert a confirmé de beaucoup que si les femmes peuvent voter un jour, elles n'apprendront jamais à composer quelque chose qui en vaille la peine. Tout semble superficiel quand elles écrivent de la musique. Bon, ça c'est dit. Sauf que le succès de Cécile Chaminade ne se dément pas. Elle est même la première compositrice à recevoir la Légion d'honneur. Mais peu avant la Première Guerre mondiale, et personne ne sait pourquoi, elle arrête d'écrire assez brutalement. Et là, plus rien à voir avec la musique. Elle devient directrice d'hôpital pendant la guerre. Elle-même a des problèmes de santé. Elle doit se faire amputer d'un pied. Elle décide après ça de se retirer à Monte-Carlo où elle décède en 1944. Alors aujourd'hui, ses œuvres ne sont que très rarement jouées. Pourtant, elle en a écrit près de 400 et parmi elles, cette pièce pour cœur et piano, Les Feux de la Saint-Jean, opus 44, interprétée ici par la maîtrise de Radio France et Anne Le Bozec au piano sous la direction de Sophie Janin.
Thank you.
feu de la Saint-Jean, une œuvre signée Cécile Chaminade. C'est un destin exceptionnel que je vais vous raconter maintenant, celui d'Hélène de Montgeroux. Nous sommes au XVIIIe siècle, en pleine Révolution française, une période où il ne fait pas bon être aristocrate. Elle a deux tares, Hélène de Montgeroux. D'abord, elle est marquise, et dans la noblesse, on ne travaille pas, et en plus, c'est une femme. Autant vous dire qu'elle n'aurait jamais dû composer. Heureusement, l'un de ses professeurs de musique l'encourage vivement à écrire. Elle se met donc à composer des sonates, des fugues. On dit aussi qu'elle serait l'une des premières pianistes à jouer Bach, Bach dont on retrouve largement l'influence dans quelques-unes des œuvres d'Hélène de Montgeroux. Pianiste de talent, figurez-vous que la Marseillaise lui aurait sauvé la vie. Et oui, c'est son biographe Jérôme Dorival qui le raconte. Enfermée à la conciergerie en attendant de connaître son sort, elle apparaît devant le tribunal révolutionnaire et là, elle s'entend dire qu'elle aurait la réputation d'être l'une des meilleures pianistes de son temps et ils tiennent à le vérifier. Et alors, elle a la bonne idée d'improviser sur la Marseillaise. Éblouie, le tribunal révolutionnaire décide donc de lui épargner la guillotine. Il y aurait encore beaucoup de choses à dire sur la vie d'Hélène de Montgeroux. Préciser par exemple qu'elle est la première femme à avoir été nommée professeure de piano en première classe au Conservatoire de Paris en 1795, l'année même de la création de l'institution, avec 12 autres hommes. Elle démissionne 3 ans plus tard pour problème de santé, mais laisse à la postérité un ouvrage énorme, un cours complet pour l'enseignement du pianoforte, une méthode de 700 pages. Alors imaginez, beaucoup de musicologues du siècle suivant prétendent qu'elle est l'une des premières musiciennes romantiques. Son biographe va même jusqu'à dire qu'elle s'impose comme le chaînon manquant entre Mozart et Chopin. Rien que ça. Je vous propose d'écouter une sonate d'Hélène de Montgeroux, la sonate pour piano numéro 9 en fa dièse mineur, opus numéro 3, interprétée par Edna Stern.
Thank you.
Edna Stern interprétait la sonate pour piano numéro 9 en fa dièse mineur, opus numéro 3 d'Hélène de Montgeroux. Allez, je vous propose de refermer cette émission avec une compositrice plus proche chronologiquement de nous, c'est Mel Bonis, Mel pour Mélanie, car la compositrice comprend très vite qu'il vaut mieux adopter un pseudonyme et brouiller les pistes quant à son sexe. Mel Bonis naît en 1858, elle grandit dans une famille où elle reçoit une éducation très stricte, religieuse. Mel Bonis, à la fois très jeune et sera très pieuse jusqu'à la fin de sa vie, mais elle ne grandit pas dans une famille de musiciens. La seule chose, c'est qu'il y a un piano chez elle et elle apprend à en jouer toute seule. Elle déploie alors des talents fabuleux jusqu'à se faire repérer pour intégrer le Conservatoire de Paris et son apprentissage se passe à la perfection. Elle a comme professeur d'ailleurs le célèbre César Franck et son passage est très remarqué dans cette grande institution, mais la catastrophe, elle tombe amoureuse d'un chanteur. Hors de question pour les très stricts parents de Mélanie Bonis de laisser leur fille se marier avec un artiste. Ils décident donc de la marier avec un veuf de 22 ans de plus qu'elle et déjà père de 5 enfants. Et le couple aura quant à lui 3 enfants. Autant vous dire qu'il n'y a plus beaucoup de place pour la musique. Quelques années plus tard, elle retrouve son amour de jeunesse devenu critique musicale et qui l'encourage à composer à nouveau. Et ses œuvres connaissent alors un vrai succès. Tout va bien jusqu'au jour où Mélanie Bonis est de nouveau enceinte, mais pas de son mari. Elle tombe alors dans une sorte de dépression, en tout cas dans un état de culpabilité, de tristesse, mais qui va lui inspirer ses plus belles œuvres. Elle explore tout et peut varier en écrivant des pièces légères, des cantiques, des œuvres concertantes, des sonates, des fugues. Et elle compose surtout pour des petites formations, comme ce trio pour piano, violon et violoncelle que je vous propose de découvrir maintenant. Le trio Morgenstern interprète le soir de Mel Bonis.
Thank you.
Le soir de Mel Bonis, nous écoutions ici l'interprétation du Morgenstern Trio. Il y aura encore beaucoup à dire sur la vie mouvementée de Mel Bonis et de toutes ces femmes compositrices qu'il reste encore à redécouvrir. J'espère en tout cas vous en avoir donné un petit avant-goût agréable. Voilà, c'est la fin de cette émission. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau repos musical.